Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François exhorte l'ONU à s'opposer à l'économie de l'exclusion. Il est urgent, selon lui, de s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté et de la faim, de rechercher des résultats substantiels pour la protection de l'environnement et de garantir un travail décent pour tous et une protection adéquate pour la famille. Nous en parlerons dès le début de cette émission. En Syrie, des civils par centaines sont entrés dans le centre historique de Homs, les larmes aux yeux, certains sous le choc en raison des destructions. C'est le fruit d'un accord sans précédent. Vous entendrez le témoignage d'un jésuite. En Sicile, l'Église affirme une nouvelle fois qu'il y a une incompatibilité totale entre la criminalité organisée et l'Évangile. Au mois de mars, le Saint-Père avait averti les mafieux qu'ils allaient finir en enfer s'ils continuaient sur cette voie. À la une de l'actualité ce vendredi au Vatican, la visite du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, accompagnée d'une importante délégation onusienne aux dirigeants des organisations, des fonds et des programmes de l'ONU, ainsi que des organisations spécialisées qui ont participé à Rome à la rencontre semestrielle du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination. L'occasion pour le pape François de rappeler qu'une part importante de l'humanité ne bénéficie toujours pas du programme. Dans un long discours, le Saint-Père a exhorté les Nations Unies à promouvoir une mobilisation éthique mondiale au-delà des différences confessionnelles ou politiques. Le regard souvent sans voix de l'humanité mise à l'écart doit, dit-il, toucher la conscience des décideurs politiques et économiques et leur inspirer des choix généreux et courageux qui donnent des résultats immédiats. Pour parvenir à un progrès économique et social équitable, il faut impérativement conjuguer les capacités scientifiques et techniques à un engagement solidaire constant, gratuit et désintéressé à tous les niveaux. Manuela Affigi.
C'est un vibrant plaidoyer en faveur de la justice sociale et de la solidarité envers les plus pauvres que le pape a livré à la délégation onusienne. Oui, le travail accompli est grand. Oui, les efforts pour assurer la paix et la protection des personnes est louable. Mais il est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, assure François. Les peuples espèrent et méritent toujours mieux. D'où l'urgente nécessité de ne pas se satisfaire des acquis, mais de s'engager toujours plus en faveur de la justice, contre les inégalités, contre cette culture du déchet et de mort qui menace insidieusement de devenir la norme. L'esprit de solidarité et de partage doit donc être promu coûte que coûte. Et le pape d'évoquer très simplement l'épisode évangélique de Zachée, le riche publicain qui, bouleversé par le regard de Jésus, opte pour le partage de ses biens avec les pauvres. Voilà pour le pape l'esprit qui doit guider les acteurs de la coopération internationale. Partage et solidarité doivent être les pivots de l'action politique et économique. Il faut œuvrer avec courage et générosité pour une juste répartition des richesses, pour qu'une grande partie de l'humanité ne soit plus exclue des bénéfices du progrès et reléguée comme citoyen de seconde classe. La conscience de la dignité de l'autre, du caractère sacré et inviolable de sa vie depuis sa conception jusqu'à son terme naturel, rappelle le pape, doit impulser cet élan de partage et d'ouverture, une disposition d'esprit qui va bien au-delà des théories et des systèmes économiques.
Prenant la parole en premier, le secrétaire général de l'ONU a dit compter sur l'Église catholique et sur la direction spirituelle du pape pour promouvoir une vie digne pour tous.
Nous apprécions profondément votre engagement personnel pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement durable, a-t-il déclaré,
avant d'inviter le pape François à venir exposer sa vision à la tribune des Nations Unies. Enfin, Ban Ki-moon, qui est sud-coréen, a demandé au Saint-Père de lancer, lors de son voyage en août en Corée, un message de guérison et de réconciliation au peuple de la péninsule coréenne. Cela fait des décennies que des convergences sont constatées entre le Saint-Siège et les Nations Unies au sujet des conflits oubliés et des situations humanitaires critiques. Cependant, des différends les opposent sur des thématiques comme la défense de la vie, la contraception et la théorie du genre. Le pape François a d'ailleurs réaffirmé, vous l'avez entendu, l'opposition radicale de l'Église à l'avortement en jugeant inviolable la vie de la conception jusqu'à son terme naturel. Récemment, des comités de l'ONU ont sévèrement et injustement attaqué
attaqué le Saint-Siège au sujet de la question des abus sexuels. Les experts ont assimilé à de la torture non seulement les actes pédophiles, mais aussi l'attitude de l'Église qui dissuade les femmes pauvres, même exploitées et violées, d'avorter. Le chef de la délégation du Saint-Siège à Genève, Mgr Silvano Tomasi, a rétorqué que l'avortement était aussi une torture. Malgré les critiques qui lui sont parfois adressées, le Saint-Siège sait en tout cas être une voix indépendante aux Nations Unies. Francesca Restifo, directrice du plaidoyer de Franciscan International à Genève, revient sur le travail des ONG catholiques à l'ONU et la voix singulière de l'Église catholique.
Sur des questions très sensibles comme la question des droits de l'homme, la voix des franciscains et des franciscaines et la voix de l'Église est vraiment une voix neutre où il n'y a pas d'intérêt spécifique derrière ou caché. Donc ça, on a vraiment une valeur ajoutée et donc on peut vraiment être écouté et on a vraiment un rôle à jouer, très important. Et l'Église a vraiment ce rôle très important parce qu'il n'y a pas des intérêts économiques derrière.
Parce qu'il y a des plaidoyers qui ont des intérêts économiques privés derrière, justement.
Mais, par exemple, le droit sur l'environnement et les violations des droits de l'homme qui sont une conséquence des activités des entreprises, oui.
Vous, qui connaissez bien l'ONU pour le vivre au quotidien, comment vous qualifieriez les relations entre le Vatican, entre le Saint-Siège et l'ONU ?
Le dialogue est ouvert, il y a vraiment beaucoup d'espace pour une relation fertile. Donc une institution internationale comme l'ONU qui est à l'écoute de ce que l'Église a à dire. Le pape actuel, mais aussi les précédents, ont essayé de prendre vraiment des mesures concrètes pour améliorer la transparence. C'est une façon aussi d'avoir une ouverture et une transparence et de pouvoir clarifier certains points de deux côtés. La voix de l'Église a toujours eu un impact. Ici, à Genève, il y a le nuncio qui parle vis-à-vis de l'Assemblée sur des questions liées aux droits des enfants, à la pauvreté des enfants, questions de côté humanitaire et le côté surtout lié aussi à l'environnement. C'est sûr, l'ONU est toujours à l'écoute. L'HCR, donc l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, qui a tout récemment envoyé un sondage sur le rôle et la valeur ajoutée de la collaboration sur le terrain avec les religieux.
Est-ce que la voix de l'Église dérange certains à l'ONU ? Est-ce que le fait qu'elle soit entendue, justement, que ça dérange ?
Il y a des positions, comme dans chaque position politique, qui sont dérangeantes, mais ça a la même valeur des positions d'autres pays par rapport à certaines thématiques.
Francesca Restifo, directrice du plaidoyer de Franciscan International à Genève, interrogée par Jean-Baptiste Cocagne. Le pape François a salué la marche nationale pour la vie qui a rassemblé des milliers de personnes jeudi devant le Parlement canadien à Ottawa en présence du président de la conférence des évêques catholiques, Mgr Paul-André Durocher. Une messe a été célébrée dans la cathédrale de la ville. Dans un message au nom du pape, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin souligne que la vie est un droit humain fondamental qui doit être sauvegardé. Le Saint-Père, écrit-il, soutient pleinement les efforts de ceux qui œuvrent pour que ce droit soit protégé par la loi et les personnes qui aident les femmes lors de grossesses non désirées. Il les assure de sa proximité spirituelle alors qu'il témoigne de la beauté, de la dignité donnée par Dieu et de la valeur de la vie humaine. Il prie pour que cet événement suscite un plus grand respect pour le droit inviolable de la vie de chaque personne à partir de la conception jusqu'à la mort naturelle. Cette 17e marche nationale a été célébrée également dans d'autres diocèses canadiens. L'Église canadienne organise dans la foulée une semaine nationale pour la vie et la famille du 11 au 18 mai. Dans un message, Mgr Durocher souligne que la famille est une école de vie, surtout dans les moments d'épreuve. Ce vendredi matin au Vatican, le souverain pontife a également reçu les évêques d'une région du monde frappée par la pauvreté, les conflits, la sécheresse et la famine endémique. Les évêques d'Érythrée et d'Éthiopie sont venus à Rome pour leur visite ad limina. Antonino Gallofaro.
Le pape François a évoqué avec des accents dramatiques les sables mouvants d'une pauvreté qui continue à mordre les habitants de la Corne de l'Afrique. Il s'est ému en particulier du sort des enfants qui souffrent de la faim, de ceux qui sont restés orphelins à cause de la violence et de la pauvreté, des jeunes contraints d'abandonner abandonner leur pays et qui risquent leur vie au cours de voyages dangereux à la recherche de meilleures opportunités. « Je suis conscient de tout cela », a-t-il dit aux évêques des deux pays. « Et je vous remercie pour tous vos programmes sociaux, inspirés par l'Évangile et menés en collaboration avec différentes organisations religieuses, caritatives ou gouvernementales, afin d'alléger cette souffrance. » Dans cette région du monde, les chrétiens offrent depuis les premiers temps du christianisme un témoignage solide et font preuve de solidarité envers les plus démunis. Mais il faut faire encore plus. Le Saint-Père invite l'Église de ces deux pays africains à retrouver l'élan des générations de chrétiens qui ont contribué à la construction des communautés locales, d'où l'importance de la formation spirituelle, intellectuelle et pastorale des prêtres et de l'instauration entre eux d'une fraternité authentique. Quant aux laïcs, il faut les rendre capables d'aider les jeunes confrontés aux multiples défis de la société contemporaine.
Rome aura également accueilli cette semaine les directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires, réunis sous la direction du cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Ils ont été reçus ce vendredi matin par le pape François, qui s'est exprimé encore une fois en faveur d'une nouvelle saison évangélisatrice. Dans le contexte actuel, marqué par de profondes de mutation sociale, l'Église doit faire un effort missionnaire et sortir à la rencontre des différentes cultures et mentalités si elle veut mener à bien son œuvre d'évangélisation. Cela exige de sa part une transformation en profondeur, la recherche de nouvelles voies, méthodes et formes d'expression. Le Saint-Père invite à ne pas se laisser décourager par ceux qui veulent entraver la proclamation de l'Évangile. Pour le pape François, les communautés ecclésiales doivent faire preuve d'un amour préférentiel pour les pauvres et les portes des églises doivent rester ouvertes. L'Église devient ainsi la maison des pauvres, des affligés, des exclus, des persécutés, de ceux qui ont faim et soif de justice. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, l'armée syrienne est entrée ce vendredi dans la vieille ville de Homs après le retrait des derniers rebelles en vertu d'un accord inédit entre protagonistes. La 3e ville de Syrie est épuisée par 2 ans de siège, de bombardements intenses et de disettes. Le quartier à majorité chrétien est dévasté. C'est de cette ville qu'avait été lancée l'insurrection armée après la répression par le régime de la contestation populaire pacifique. Ce retrait de la rébellion de cette ville symbole est un moment important dans la guerre syrienne. Civils qui rongent le pays. Il montre que localement, des solutions peuvent être négociées. C'est une lueur d'espoir pour l'avenir du pays, selon le père jésuite Ziad Hilal. Il est actuellement dans la vieille ville de Homs et a assisté à l'évacuation des derniers rebelles.
Comme religieux, il nous a demandé d'accompagner les rebelles de la sortie de la vieille ville jusqu'au nord Homs, qu'on appelle Al-Dar al-Kibira. Chaque bus rempli de 40 rebelles, accompagnés par un prêtre et aussi par la communauté de UN. Les personnels de l'ONU ne sont pas dans le bus, mais font des stations dans la route. Donc c'était les prêtres qui sont dans les bus. Le contrat, c'était d'évacuer tous les rebelles de la vieille ville avec une arme léger.
On a parlé de rebelles, mais on a parlé aussi de civils blessés, je crois. Est-ce que vous confirmez cette information?
En fait, ce que j'ai vu moi-même, j'étais tout le temps là-bas, 6 femmes et 2 enfants, des civils. Mais il y avait quelques blessés, je ne sais pas s'ils sont des civils ou des rebelles, qui étaient accompagnés. Il était à peu près 9 personnes.
Dans quel état d'esprit et de santé sont les 23 chrétiens qui sont restés dans votre résidence?
Ils sont très contents maintenant parce que ce matin, les évêques de Homs, les religieux, sont venus accompagnés de quelques civils. C'est la première fois, c'était hier, qu'ils ont vu le pain après plusieurs années, ça veut dire plus de 2 ans et demi. C'était quelque chose pour eux, la première fois qu'ils ont vu de la nourriture, ça fait plus qu'un an. Ils n'ont pas goûté ni de la viande. Ils mangent seulement les herbes qui sont plantées à droite, à gauche dans les maisons. Donc c'était dans la joie de trouver quelqu'un quand même qui vient de l'extérieur chez eux.
Est-ce que vous avez l'espoir, Père Ziad, que quelques chrétiens justement reviennent dans la vieille ville de Homs?
En fait, d'hier, le téléphone n'a pas cessé de sonner. La plupart des chrétiens voulaient vraiment revenir, mais le problème maintenant, qu'il y a des maisons piégées, des ports, des voitures, il y a des bombes à droite, à gauche. Donc la situation est très délicate. D'abord, il faut que les ingénieurs spéciaux qui entrent pour nettoyer les ordures de la guerre, puis les civils peuvent rentrer. Mais malheureusement, maintenant, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce matin, c'est la désordre générale. Les églises sont détruites, pas complètement. On peut le restaurer, mais ça va coûter beaucoup de l'argent et beaucoup de temps.
Père Ziyad, est-ce que vous avez l'espoir qu'après cet accord entre le régime et les rebelles à Homs, que d'autres situations sur le terrain se débloquent localement et que du coup un espoir d'une solution négociée puisse petit à petit s'installer dans le pays?
Ce que le père Frans van der Lort a espéré, toujours il a dit, ce n'est pas la force ni les armes qui va parler à la fin, c'est les accords, ça veut dire la réconciliation. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous. Et on a vu, ça fait 2 ans et demi à peu près, il y a le combat à Homs, la vieille ville. Ce n'est pas terminé que par un accord. C'est ça la seule solution, non seulement pour Homs, mais aussi pour toute la Syrie.
Est-ce que cette évacuation de la vieille ville de Homs est un tournant dans la guerre, selon vous, et une porte qui s'ouvre vers un avenir meilleur?
Oui, bien sûr, parce que c'est grâce à l'intervention de l'ONU, à l'intervention des religieux, à l'intervention de la communauté internationale, pour cesser de délivrer les armes aux mains des Syriens. Et moi-même, ce que j'ai vu des enfants, des rebelles, enfants qui portent des armes. Ça veut dire, si on revient 3 ans en arrière, ils avaient combien? 15 ans, 14 ans, 13 ans? Ils ne savent rien de rien, quelquefois. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils combattent qui? Ils ont des idées intégristes. Ce qui est très difficile.
Le père jésuite Ziad Hilal, interrogé par Olivier Bonnel. La Sicile s'est souvenue avec émotion vendredi matin d'un adolescent de 15 ans tué par la mafia dans les années 90. L'Italie célébrait ce vendredi une journée en mémoire des victimes innocentes de la criminalité organisée et du terrorisme. Fils d'un repenti qui avait choisi de collaborer avec la justice, Giuseppe Di Matteo avait été tenu enfermé dans une cave pendant 779 jours, puis étranglé et dissous dans l'acide. Une messe a été célébrée par l'archevêque de Montréal qui a béni symboliquement une croix de la rédemption dans le jardin de la mémoire sur les lieux du meurtre de l'adolescent. Dans son homélie, Mgr Michele Penisi a eu des termes durs, affirmant que la mafia était la fille du diable et appelant les mafieux à se convertir et à réparer le mal qu'ils ont accompli. L'archevêque a par ailleurs invité les Siciliens à se libérer non seulement de la mafia, mais aussi de la mentalité mafieuse. Le 21 mars, dans une église romaine proche du Vatican, le pape François avait fustigé l'argent qui provient de tant de crimes mafieux et d'affaires sales. Et il avait lancé à l'adresse des mafieux ce pouvoir ensanglanté. Vous ne pourrez pas l'emporter avec vous dans l'au-delà. Ce vendredi 9 mai, c'était aussi la fête de l'Europe. Quelques initiatives de prière ont été organisées ici ou là. Mais à quelques jours des élections européennes, alors que l'on assiste à une montée en force dans les sondages des listes eurosceptiques, la mobilisation des chrétiens reste faible. Jean-Baptiste Cocagne.
Des catholiques pratiquants, Robert Schuman en tête, figure parmi les pères fondateurs de l'Union européenne. Et les évêques du continent continuent à se prononcer clairement en faveur de la construction européenne. Mais c'est indéniable, l'enthousiasme pro-européen des chrétiens s'est atténué. Selon Mgr Jean-Pierre Gralet, l'archevêque de Strasbourg, la paix ou le confort nous ont peut-être endormis, même s'il reconnaît que l'Europe donne parfois l'impression d'une grande bureaucratie. Il est vrai aussi que Bruxelles est devenue le bouc émissaire de tous les ratés des politiques nationales. D'autre part, beaucoup de chrétiens regrettent la prédominance culturelle et politique de l'Union européenne, qu'ils perçoivent souvent comme contraire à leurs convictions, par exemple le droit à la vie, l'objection de conscience ou encore la justice sociale. En France, le Secours catholique a d'ailleurs profité de ce scrutin pour plaider en faveur d'une Europe plus sociale et solidaire, à l'écoute des plus démunis. Au mois de mars, envers et contre tout, la commission des épiscopats de la communauté européenne a réaffirmé son soutien au projet européen, encourageant tous les citoyens de l'Union non seulement à se rendre aux urnes du 22 au 25 mai prochain, mais aussi à engager un dialogue constructif avec leurs élus. Reste à savoir si les évêques parviendront à se faire entendre.
Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican. En français, bonne fin de semaine à tous.